Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah ben ça, c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
RMC After Galaxy, le podcast.
Nicolas Villas.
Oh, la vive, bienvenue dans votre podcast After Galaxy. Merci d'être là, de nous suivre, de vous abonner sur votre appli. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires et vos remarques. Podcast spécial, finale Europa League. Le 18 mai prochain, l'Eintracht Francfort et le Rangers FC vont s'affronter au Sanchez-Pizjuan de Séville pour la 51e édition de la C3. Avec nous pour plonger dans cette affiche, deux de nos drôles de dames. Salut Paulo Breitner.
Bonjour mon cher Nico, bonjour tout le monde.
Coucou Julien Laurence.
Salut Nico, salut Paulo, salut à tous.
Et en guest dans ce podcast After Galaxy, il a joué pour les Rangers entre 2004 et 2005, avec qui il a notamment été champion d'Écosse. Il a entraîné les jeunes des Rangers également. Il a été en charge de la préformation de l'OM et aujourd'hui, il déroule à la tête des U23 du Dundee FC toujours en Écosse. C'est Grégory Vignal. Salut Greg, merci d'être avec nous.
Oui, bonsoir, merci.
Alors juste une petite question Greg, comment ça se passe pour toi là depuis ton départ de l'OM il y a un an? Qu'est-ce que tu deviens? Genre j'ai un peu grillé le truc, hein. Je crois que tu es du côté de Dundee FC en Écosse.
Ouais c'est ça, je suis arrivé après avoir quitté l'OM, je suis arrivé à Dundee Football Club à la demande de Gordon Strachan, un ancien joueur écossais, qui est directeur général du club, et puis j'ai rejoint les 23 donc depuis le mois de juillet.
Et bah parfait, et puis de loin ça se passe bien. L'Eintracht et les Rangers se sont qualifiés après avoir respectivement sorti West Ham et Leipzig. Morceau choisi de ces deux nuits.
Das wird Wahnsinn, die Fans warten schon drauf. Kevin Trapp, kurz gespielt. Aus, 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 es ist vorbei. Eintracht Frankfurt ist im Finale. Der, den du nicht vergessen wirst, der komplette Platz wird hier gerade gestürmt. Eintracht Frankfurt steht im Finale der Europa League.
And that is it. Rangers have done it for the first time in 14 years. They reach a major European semi-final. And now all roads lead to Seville and the Europa League final.
Alors cette finale d'Europa League, hein, Eintracht Rangers, on va pas se mentir, on l'a pas vraiment senti venir. Surtout après la victoire 1-0 de Leipzig à l'aller face aux Rangers. D'ailleurs Polo, comment cette défaite 3-1 à Ibrox au retour, cette élimination du RB Leipzig a été vécue en Allemagne?
Ben en fait, on en a relativement peu parlé, sauf d'une façon très négative, parce qu'il y a un tel amour autour de Francfort, si tu veux, que Leipzig est un petit peu passé au clou. Et c'est aussi ce qu'on me disait lundi dans l'after, c'est que comme c'est un petit peu la revanche des traditions de Sphérine, et je sais que Grégory Vidal a joué pour un club allemand historique qui s'appelle Kaiserslautern, s'il y a un tel engouement autour de Francfort que la défaite de Leipzig, si tu veux, elle passe un peu à la trappe, tout en sachant qu'on trouve que c'est pas normal, c'est-à-dire que quand même le niveau de Leipzig aurait dû permettre de gagner contre les Glasgow, mais vu la prestation et l'intensité qu'ont mis les Glasgow Rangers lors de cette demi-finale retour, faut pas s'étonner, le foot hein, c'est pas que de la technique, hein. faut aussi aller chercher le ballon, et c'est pas ce qu'ils ont fait lors de cette demi-finale retour. Donc si tu veux on en parle relativement peu, surtout parce que Leipzig n'est pas un club aimé comme d'autres clubs allemands, et ça c'est très caractéristique du football.
Alors ça en revanche, les Rangers ils sont aimés en Écosse, hein. On rappelle leur parcours quand même vite fait, ils ont terminé la phase de groupe derrière Lyon, devant le Sparta Prague et Brøndby, en barrage ils ont éliminé le BVB qui était reversé de Champions quand même, Dortmund, en huitième ils ont sorti l'Étoile Rouge de Belgrade, en quart Braga, et alors Julien, ce qui est fou, c'est que c'est souvent avec des scénarios de folie justement.
C'est vrai que c'est incroyable, et on a vu encore la puissance d'Ibrox hein, dans cette demi-finale retour, comme on l'avait vu contre Dortmund, par exemple, comme on l'a vu contre Braga, notamment, pour aller, même si Braga avait arraché, rappelle-toi, la prolongation, mais c'est vrai qu'avant ça, on avait senti ce peuple, hein, ce peuple bleu, ce peuple protestant, il faut le rappeler aussi, qui est tellement ancré dans son histoire, dans ses croyances, et dans son héritage aussi, très important dans ces matchs-là. C'était pour eux l'occasion de montrer à tout le monde qu'ils pouvaient remonter vers les sommets. Ce club qui ne meurt jamais, finalement, cette tradition qui ne meurt jamais. Les grands clubs ne meurent jamais, on le dit souvent. Et ça fait très longtemps qu'ils n'étaient pas arrivés à ce niveau-là, qu'ils n'avaient pas gagné des matchs pareils, contre des équipes pareilles, contre des joueurs pareils. Et là, tu sentais vraiment que c'était le rendez-vous à ne pas rater. Et c'est vrai que tous ces retournements de situation ou toutes ces grosses performances, eh ben, elles viennent aussi de là. Elles viennent du cœur, des supporters. Je pense qu'on en avait parlé dans l'after avec Polo. Leipzig perd cette rencontre-là aussi à cause du public, à cause du 12e homme qui a été à Ibrox dans ce match-là contre Leipzig, mais aussi tout au cours de cette compétition européenne.
Alors Grégory Véniel, toi qui vis en Écosse à Glasgow, comment cette qualif des Rangers pour cette finale d'Europa League a été vécue? Est-ce que c'est vraiment un vrai événement?
C'était vécu comme c'était une grosse attente parce que bon, Polo l'a bien dit, la puissance d'Ibrox, c'est extraordinaire. Je pense qu'à mon avis, c'est un des stades le plus compliqué à jouer en Europe quand il y a de l'enjeu. Je veux dire, moi, c'est la première fois que j'ai regardé le match, c'est la première fois, je crois, une des premières fois, je voyais Ibrox en fusion comme ça, parce que c'était extraordinaire. C'était vraiment, et je pense que ça, les joueurs de Francfort, je pense que ça ne faisait pas ça, honnêtement. Hein. Et après, ça donne tellement d'intensité. Puis en plus, il y a eu cette malheureusement cette journée tragique où ils ont perdu le kitman, Billy Jenny qui est décédé. Donc, je pense que ça donnait encore plus une motivation supérieure à tout ce club.
Polo, comment les Rangers qui ont quand même fait tomber Dortmund puis Leipzig, ils sont perçus en Allemagne, notamment avant cette finale face à un autre club allemand, en l'occurrence l'Eintracht?
Je crois que celui qui a le mieux résumé ce qu'on pense des Glasgow Rangers, c'est tout simplement le président de Francfort, qui a dit c'est pas compliqué cette finale, alors que on pourrait se dire, ah bah mince, on est un peu triste, on aurait pu avoir une finale 100% allemande. Il dit non, Glasgow, les Rangers contre Francfort, c'est la tradition contre la tradition. Et ça, pour eux, si tu veux, c'est, comme l'a dit Juju, les grands clubs ne meurent jamais. Greg l'a vécu aussi lorsqu'il était en Écosse. Voilà, cette finale, on s'en fiche en fait à la rigueur que Leipzig ne soit pas là. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un historique du football européen qui est en face. Et donc, ça va forcément faire une super finale. Et d'ailleurs, il y a une fabuleuse interview de Egon Loy, qui était le gardien... lors de cette fameuse demi-finale contre les Glasgow Rangers en 1960, qui a rappelé les anecdotes, c'est qu'à l'époque, Francfort était un club amateur, et donc les Glasgow Rangers les avaient pris un peu de haut, tu vois, dans cette finale, donc on ne va pas rappeler le score, parce que c'est un peu humiliant pour les
ouais, le ils ont gagné écossais. En 2-7, hein,
voilà. 6-1-6-3, voilà. Et donc c'était vraiment, parce que c'est vraiment le début de l'épopée européenne de Francfort, avec cette fameuse finale de Coupe d'Europe des clubs champions contre le Real Madrid, mais en fait, il y a un énorme respect pour Glasgow, parce que c'est l'histoire qui parle, tout simplement.
Alors, les Rangers en finale de Coupe d'Europe, c'est une première pour le club depuis 2008. À l'époque, l'équipe de Glasgow, entraînée par Walter Smith, où évoluait alors Brahim Emdani ou Jean-Claude Darcheville, avait sorti la Fiorentina en demi. La décision s'est faite au tir au but lorsque Novo s'est élancé face à Sébastien Frey.
Rangers are coming! Scotland will have its big night as well! They won't need passports, but the battle for tickets starts now.
Alors les Rangers allaient s'incliner en finale 2-0. Greg, comment on explique que le deuxième du 9e championnat européen au ranking UEFA parvienne à atteindre une finale de C3? Comment on l'explique ça?
Comment on l'explique? Par la qualité, hein. Je veux dire, il y a de la qualité. Moi je suis arrivé un an avant Steven Gerrard, mais je suis rentré dans le projet avec l'équipe première aussi, donc j'ai vu le travail qui a été mis en place. Je pense que c'est un travail sur les 3-4 dernières années. Il y a eu des nouveaux joueurs qui sont arrivés, il y a eu un gros changement au niveau des infrastructures internes du club, ça a été beaucoup plus professionnalisé. Steven a essayé d'amener aussi l'ADN de Liverpool sur le professionnalisme. Je veux dire, dans le travail, au quotidien, c'était vraiment, c'était redevenu du haut niveau. Donc forcément, il y a eu suivi sur ces 3-4 dernières années. Et après, la qualité, les pays travaillent, c'est un peu de travail. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que certains grands championnats qui bossent. Je veux dire, l'Écosse fait partie de ces pays où en incluant la Fédé, tout le monde travaille. Donc forcément, derrière, les grands clubs ne meurent jamais. Donc, moi, on me pose souvent la question entre un feed et iBox. Mais c'est vrai que c'est... Honnêtement, ça a dû être très, très dur pour Francfort.
Ouais.
Parce que pourtant, les ambiances allemandes sont... C'est costaud, hein. Je veux dire, la Kaiserslautern, pourtant, c'était en deuxième division, mais la Kaiserslautern, tu sens l'ambiance, tu vois l'engouement allemand de la part de ses supporters. Mais après, c'est moins spécial.
Alors Julien, c'est vrai que quand on refait un peu le parcours des Rangers sur les 10 dernières années, c'est quasi miraculeux ce qui leur arrive. Il y a encore 6 ans, ils étaient en D2. Il y a moins de 10 ans, ils repartaient de D4. On le rappelle, le club avait déposé le bilan. Liquidation judiciaire, je crois, si je dis pas de bêtises. Ils reviennent de loin, les Rangers.
Ils reviennent de très très loin, ouais. Pour que les auditeurs se rendent bien compte, c'est l'équivalent de ce que a vécu l'OM en 93 finalement, en 94. Mais
c'est
en
pire, parce que l'OM est reparti en D2, ils repartent en D4.
C'est, ce que dire. C'est pour ça que je te dis, en 4ème division. C'est pareil, mais imaginez en N2, ouais. Voilà, ou un truc comme ça. C'est hallucinant, quoi. Et puis même quand ils étaient à ce niveau-là, ils avaient toujours le soutien du public, bien sûr. Et puis après, petit à petit, notamment avec des anciennes figures du club, tu as reconstruit avec des nouveaux propriétaires. Financièrement, ça avait coulé, tu pouvais pas faire les mêmes erreurs. Je pense même que le club a été dans un sens un petit peu chanceux entre guillemets avant que Greg arrive avec ce nouveau projet là il aurait pu complètement disparaître, pas simplement repartir en 4ème division, mais il y a eu un moment où on a pensé aussi que il serait complètement dissolu et qu'il allait disparaître et qu'il fallait recréer un autre Rangers, quoi, un autre Rangers FC, ou l'appeler autrement, je sais pas. Mais c'est vrai qu'après, l'avantage, c'est que tu peux pas tomber plus bas que la 4ème division. Donc à un moment, forcément, il regardait vers le haut. Mais c'est vrai que ça a mis du temps. C'est vrai qu'il a fallu recruter les bonnes personnes, déjà au niveau de l'encadrement. Donc Greg en parlait tout à l'heure, des gens comme lui, avec d'autres idées, avec des opinions différentes, avec des visions différentes. Steven Gerrard, aller chercher un Gerrard qui sortait des équipes de jeunes à Liverpool, c'était quand même un sacré pari. Surtout à la période où le Celtic dominait outrageusement le championnat écossais. Ils ont quand même été champions de 9 saisons d'affilée, ce qui est hallucinant. Et c'est vrai que ces choix-là ont payé. Et puis après, dans le recrutement, chez les jeunes aussi, parce que c'est vrai qu'il y a une nouvelle génération de joueurs écossais qui arrive, qui est vraiment intéressante. Et puis après, on le dit depuis le début, mais c'est vrai, les grands clubs ne meurent jamais. Cette ambiance-là, moi j'étais au match de Lyon, j'ai commenté le match de Lyon avec Edouard Jay. Et avec Olivier Talaron de Canal+, à la fin du match, on a retrouvé les bouteilles de whisky et tout ça que les supporters dans les premiers rangs du COP derrière le but. Non mais c'était hallucinant. Je crois que tant que vous n'êtes pas allé à Ibrox, vous ne pouvez pas vous rendre compte de l'atmosphère que c'est. Alors pas tous les matchs, bien sûr, quand ils mènent 4-0 contre Hibernians par exemple, c'est pas la même ambiance que quand tu es un match coup près comme ça contre Leipzig, tu as un but de retard en demi-finale de Coupe d'Europe, bien sûr. Mais c'est des matchs, c'est des ambiances extraordinaires. Et je pense que c'est ça aussi qui les porte si loin, qui les a par le passé portés si loin, et qui, encore une fois, cette saison, les a portés si loin.
Ce duel face aux Rangers marque aussi l'histoire de l'Eintracht, première finale européenne pour le club allemand depuis 1980. Son adversaire était alors Gladbach, qui s'était imposé 3-2 à l'aller, mais au retour...
Schaub, Schaub, Schaub. Sie sehen es, wer das Tor schoss. Der neue Mann aus dem Gewühl. Körbel. Der noch einmal hier. Nachsetzt und dann mit unbändigem Einsatz. Schaub, schlänzt den Ball mit dem linken Fuß ins tiefe Eck.
Il est vraiment content, hein, le commentateur. Là. Oui, il est à son max. Hein.
Ouais, ouais. Mais faut expliquer qu'il y avait quatre équipes allemandes.
Voilà,
en
alors j'allais y venir. Schaub marquait le seul but du match, hein, ouais. Retour, et Francfort s'imposait grâce à la règle du but à l'extérieur. Et en 80, il y avait quatre équipes allemandes en quart de C3. Il y avait Stuttgart et le Bayern, en plus de Gladbach et de l'Eintracht. Bah, justement, Polo, est-ce que cette présence de l'Eintracht en finale de C3, ce qui est une première, hein, pour un club allemand dans cette compétition depuis 2009, signifie, ouais, que les clubs allemands reprennent finalement cette compétition au sérieux?
Moi, pour moi, je ne sais pas si c'est un vrai ou un faux débat. Il y a des joueurs, évidemment, qui font des déclarations en disant qu'ils n'aiment pas forcément cette compétition et qu'ils veulent seulement jouer la Ligue des Champions, mais sauf qu'on ne les a jamais vus briller en Europa League. Donc, moi, j'ai une tendance toujours à leur dire, bah, commence à gagner l'Europa League avant d'aller en Ligue des Champions. Ce qui est sûr, c'est que l'Eintracht a un ADN européen qui est très, très important. Je te rappelle, Nico, l'opposition contre Porto en 2012-2013, le 2-2 et 3-3. Il n'y a que Francfort pour faire c'est vraiment un club qui aime l'Europe, qui s'est construit avec les coups et les coupes. Hein. Ils n'ont jamais été champions de Bundesliga. Ils ont gagné le championnat d'Allemagne en 1959, mais c'était encore une fois pas professionnel. Donc c'est vraiment une équipe. Si on m'avait dit, est-ce qu'une équipe, on va dire, de Bundesliga qui a le niveau Europa League peut aller en finale de cette Europa League, j'aurais tout de suite levé le doigt et dire c'est Francfort. Parce que cet ADN, on parlait du public d'Ibrox Park, mais au Waldstadion, c'est très spécial aussi. On l'a dit aussi, c'est une équipe où il y a des des supporters, qui a une culture des ultras italiennes, c'est unique en Allemagne. C'est-à-dire que c'est bouillant le Waldstadion dès qu'ils ont, ils ont la possibilité d'aller chercher quelque chose. Et c'est à l'image du surnom de cette équipe, c'est Das Launische Diva, je le dis toujours, la diva capricieuse. C'est que là, en ce moment, ça va bien. Mais ça veut dire que dans les deux prochaines années, ça va moins bien se passer pour Francfort. Maintenant, pour répondre clairement à ta question, est-ce que les clubs allemands prennent plus sérieusement l'Europa League il y a quelques années? Peut-être. On peut dire que si Dortmund et Leipzig sont sautés, qui sont des équipes de Ligue des Champions, c'est aussi peut-être un petit peu à cause de ça, même si ce n'est pas acceptable et pas excusable. Hein. Moi, je suis désolé, le Borussia Dortmund doit, quand tu vois les joueurs du Borussia Dortmund, doit passer le Glasgow Rangers. Ça n'empêche rien, évidemment, à la super victoire des Rangers. Mais c'est sûr que pour une équipe d'Europa League, ça fait du bien, et les débats en Allemagne retournent là-dessus, c'est-à-dire qu'on dit toujours oui, c'est bien, on se débrouille bien sur les 10-15 dernières années en Ligue des Champions, maintenant il va falloir faire quelque chose en Europa League, mais ce qu'a fait Francfort, Mönchengladbach aurait très bien pu le faire, Schalke aurait très bien pu le faire, Cologne pourrait très bien le faire aussi, donc voilà. Je suis pas sûr que ce soit si tranché que ça, ta question, de dire est-ce qu'il la joue vraiment à fond ou pas, puis je trouve que c'est une excuse toujours un peu facile.
Greg, toi qui es passé par l'Allemagne aussi, hein, tu le disais tout à l'heure, Kaiserslautern en 2007, qui a un historique du foot allemand. Comment t'analyses ce retour au premier plan de l'Eintracht?
Bah, je pense qu'ils ont, on l'a dit, c'est qu'ils ont fait du bon boulot. Hein. Je veux dire, bon, même l'année dernière, mais cette année, bon, même à championnat, je veux dire, c'est quand même pas mal. Donc les Allemands, ils sont quand même toujours durs à jouer. Ils se préparent bien. Non, mais c'est bien pour le football allemand, je pense que c'est une bonne chose. Après, Polo le disait bien, je veux dire, quand tu commences une compétition, en principe, tu sais de la gagner, et avant de gagner la Champions League, tu essaies déjà de gagner l'Europa League. Donc c'est une compétition qui est superbe à jouer, qui est superbe à gagner. Moi, j'ai eu la chance de la gagner avec Liverpool. Je peux te dire que quand tu l'as dans le bus, tu es content de l'avoir. Hein. Non, mais écoute, je pense que ils ont manqué la dernière marche, hein, avant la finale, mais bon. Après, c'est pas un match facile. Hein. Les gens pensent que, parce que c'est un club écossais, que ça va être joué d'avance. Mais je vous le dis, franchement, c'est pas du tout le cas. Il faut arrêter d'avoir cet état d'esprit. Parce que, et des fois, ça fait même du bien, parce que dans les grands championnats, ils ont peut-être tendance à dire, ah, ben, on va y aller tranquille, on risque de passer, et, ben, à la fin de la journée, ben, tu te mords tout les doigts, parce que tu tombes plus fort que toi, quoi.
Julien, on en dit quoi de l'Eintracht en Écosse où les Rangers finalement ont pris goût à l'allemand, hein, cette saison? On le disait tout à l'heure, hein, ils ont sorti Dortmund, ils ont sorti Leipzig, là ils ont Francfort maintenant en face. Il y a quoi? Est-ce qu'il y a un complexe d'infériorité, ou au contraire on se dit bah personne nous attend et on va y aller franco?
Complètement.
Ouais.
Bon, alors complètement. Alors eux, déjà ils disent jamais 203. Pour commencer. Ouais. Ensuite, c'est vrai. Ensuite, ils vont être 50 000 à Séville, si c'est pas plus. Les trois quarts sont sans billets, mais ils en ont rien à faire. Ils veulent y être, donc ils vont y aller. Donc, je pense que cet état d'esprit dont on parlait tout à l'heure d'Ibrox à domicile, qu'il a forcément, ne sera pas vraiment là parce que c'est pas le même stade. Mais je pense qu'ils seront ils seront tellement nombreux, mais les Allemands aussi, hein, c'est pas une question de qui sera meilleur que l'autre ou quoi que ce soit, mais je pense qu'on verra beaucoup de supporters des deux clubs, beaucoup sans billets aussi, mais qui seront là pour justement apporter ce rôle de 12e homme, si tu veux. Et puis après, ils se disent, de toute façon, personne ne nous attendait jusque-là. On a battu des très très grosses équipes comme le Borussia Dortmund, par exemple. On a battu des équipes peut-être un petit peu moins huppées comme Braga, par exemple. Leipzig était aussi classé dans les très bonnes équipes. Maintenant, c'est du 50-50, c'est une finale. Mais je pense qu'ils sont dans un tel état d'esprit. Giovanni Van Bronckhorst, faut pas l'oublier quand même, est arrivé en cours de saison quand Gerrard est parti à Aston Villa. C'était pas facile pour lui non plus d'arriver dans ce club-là, même si c'est un effectif qui a gagné la saison dernière, qui a été champion, qui avait quand même une certaine dynamique, une certaine confiance, qui avait un certain style de jeu assez établi quand même sous Gerrard. C'est pas facile pour un nouvel entraîneur d'arriver, d'imposer quelques idées, quelques petits changements, même s'il n'a pas non plus changé énormément de choses. Ils ont perdu Alfredo Morelos, qui est leur meilleur joueur. Je pense que Greg sera d'accord avec moi, ou en tout cas un des meilleurs joueurs, mais surtout le vrai seul pur avant-centre qu'ils ont dans cet effectif-là, plus qu'un Kemar Roof par exemple, encore plus qu'un Scott Wright ou qu'un Fashion Sakala. Donc c'est pas facile en plus d'arriver là sans ton meilleur joueur ou un de tes meilleurs joueurs. Et je pense qu'ils se disent vraiment, c'est un miracle qu'on soit là entre guillemets, parce que personne ne nous attendait là. Maintenant on va y aller pour gagner, pour soulever le trophée, quoi.
Focus maintenant sur le héros de ces campagnes de l'Eintracht et des Rangers, ça a commencé par le meilleur buteur de cette Europa League 2022, James Tavernier.
That was a tough test, but unbelievable feeling to be a European finalist. You know, it's what you dream of.
Voilà, c'était sa réaction après la qualification face à Leipzig lors du match retour. 7 buts inscrits par Tavernier en Europa League cette saison. L'anglais de 30 ans des Rangers, qui est un peu le symbole de son équipe, dans laquelle figurent finalement beaucoup de joueurs très expérimentés. Et surtout, Julien, beaucoup de joueurs qui sont là depuis de nombreuses saisons. Hein. Ils ont une équipe qui s'inscrit sur la durée, les Rangers. Hein.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, des joueurs comme Ryan Kent, par exemple, Ryan Jack, on parlait de Morelos tout à l'heure aussi. D'autres qui sont même encore plus... Ils ont un vrai beau mélange d'expérience et de jeunesse, entre guillemets. Ils ont un vrai beau mélange de joueurs étrangers et de vrais joueurs écossais qui correspondent vraiment à l'identité du club et tout ça. Et puis ils ont effectivement un joueur comme James Tavernier qui n'a aucun droit à la base d'être là. Il a aucun droit d'être si fort. Le gars, il a été trimballé dans les divisions inférieures en Angleterre. Il a joué à Milton Keynes, il a joué à Shrewsbury, il a joué à Rotherham, mais ça ressemblait à rien, sa carrière. Tu vois, à Bristol City. Non, mais c'est vrai, il arrive aux Rangers en 2015, donc ça fait longtemps qu'il est là pour, je sais pas moi, 200 000 euros, un truc comme ça, ou 300 000 euros à l'époque. C'est ridicule. Aujourd'hui, c'est un des meilleurs, sincèrement, il a 30 ans, donc c'est l'expérience, il a plus de maturité, mais c'est un des meilleurs arrière-droits d'Europe pour moi, sans aucun doute. Il y a même pas photo. En plus des buts, alors il est très bon sur penalty, ça c'est sûr, mais la façon dont il se projette vers l'avant, Gerrard en a fait un super super joueur, il était déjà bon avant, mais encore plus avec Gerrard. Et moi je trouve ça incroyable qu'il soit, sans faire offense aux Rangers ou au championnat écossais, mais qu'il soit encore là, qu'aucun club de première ligue soit venu le chercher, je trouve ça aberrant, tellement il est fort quoi. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu la star de cette finale que personne connaissait ou dont personne s'attendait à parler de lui quoi.
Alors, tu parlais de l'identité très forte de cette équipe des Rangers. Alors, il y a un petit paradoxe quand même, Greg, et là je me tourne vers toi qui as connu la formation, qui a bossé au sein de la formation des Rangers, c'est que finalement, quand on regarde dans la campagne européenne de cette saison d'Europa League des Rangers, il n'y a que deux joueurs qui sont formés au club, c'est le gardien 40 ans McGregor et Patterson qui depuis est parti à Everton. Est-ce qu'il y a une volonté de la part des Rangers finalement de donner plus de place aux joueurs formés aux Rangers qui sont vraiment issus du club finalement?
Bah écoute, le premier, je le connais très bien parce que moi je vais ensemble. Donc,
il a fondé le club, hein, McGregor. Donc, il était là il y a 100 ans déjà.
Donc, voilà, donc McGregor, c'est une gars de club. Nathan, c'est moi qui l'ai formé. C'était mon capitaine de 18 quand on a fait le doublé. Donc Nathan, je veux dire, le club ne pouvait pas refuser l'offre d'Everton. Donc ça, t'as l'aspect financier aussi qui fait que quand tu vends un joueur quasiment pour 15 millions et qui te coûte juste quelques années de formation, tu ne peux pas refuser, surtout pour un club écossais. Quoi. Donc il est parti et puis c'est une personne que je pense qui va exploser. Après, il y a des jeunes qui arrivent. Hein. Il y a le petit Alex que moi j'avais aussi au centre, qui commence à faire des matchs, qui a marqué un but cette année. Laurie, donc il commence à arriver. Mais après, le problème, c'est qu'il y a les sirènes anglaises qui sont là. Donc après, pour c'est pas facile de pouvoir résister au chéquier. Hein. Après, si tu prends le juste, parce que pour faire une comparaison, il faudrait comparer le combien a coûté l'effectif des Rangers. Si je pense que si c'est 15 millions, c'est le bout du monde actuellement. À comparer avec Francfort, je sais pas, hein, Polo, c'est peut-être mieux ça que nous. Mais en termes de budget, si tu regardes millions. Combien a coûté... Ouais.
200 millions, dit Polo. Hein. Ouais, c'est pas la même.
200 millions, Polo, donc regarde, ouais. je crois, mais ça vérifie, je vais pas dire bêtises.
Ouais, mais justement, Greg, c'est d'autant plus paradoxal qu'un club avec 15 millions de budget, finalement, valorise pas plus les joueurs formés au club, non?
Mais ils valorisent, mais le problème, c'est que là...
Ils sont obligés de les vendre tôt, quoi, c'est ça? Ouais.
Tu es obligé de les vendre. Le truc, c'est qu'après, tu as besoin d'expérience aussi. Tu peux pas t'amuser à faire une Europa League ou un Champions, une grande compétition européenne qui a des jeunes. C'est impossible. Après, tu as la maturité dans le jeu qui t'as trop besoin de maturité, t'as trop besoin d'expérience. Tu parles de Tav. Tav, bon, voilà, il a 30 ans. Pour peut-être revenir dessus, je pense, pourquoi il n'a pas eu de club de première ligne, parce que je pense qu'il n'a pas réussi avant et assez tôt de pouvoir montrer ses qualités en première ligne. Donc, je pense que ça a été peut-être son problème aussi. Là, au Rangers, il est dans un contexte qu'il connaît, dans un environnement qu'il maîtrise. Il a la confiance, il est adulé par les supporters. Donc, forcément, que mentalement, psychologiquement, ce mec a franchi un cap. Mais pour les jeunes, c'est vrai que attention, bon, c'est compliqué de venir de dire non, surtout au club au Comarie, quand ils arrivent, regarde pour Neyfe. J'en ai rediscuté avec lui au mois d'octobre avec l'équipe nationale d'Écosse. Donc comment tu viens un gamin de 20 ans, dis-le là, t'as 15 millions sur la table, le club, ne peut pas refuser, c'est impossible.
Ouais. Côté Eintracht, Polo, il y a un tiers des joueurs les plus utilisés cette saison qui ont 22 ans ou plus. au plus, pardon, 22 ans. Alors le français Vandika, 22 piges, est le genre de champ le plus utilisé cette saison du côté de Francfort. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de jeunes joueurs, mais là aussi, il y a peu de joueurs formés au club. Comment tu analyses ça? C'est quoi finalement la politique, le modèle Eintracht alors, à ce niveau-là?
C'est difficile de le définir comme ça, parce que, comment je pourrais dire ça d'une façon très simple, ils n'ont pas sorti de grands joueurs et non pas de joueurs ces dernières années. Le dernier, c'est Bartók, et encore, il va partir parce qu'il n'a pas forcément le niveau de Francfort. Le problème, c'est le positionnement de Francfort dans le football allemand. Théoriquement, Francfort, c'est le premier des outsiders. Donc tu ne peux pas te permettre de faire quand je dis le premier des outsiders, c'est derrière Dortmund, derrière le Bayern, derrière Leipzig et Leverkusen. C'est eux, hein, ces dernières saisons. D'ailleurs, ils ont souvent flirté avec la qualification pour la Ligue des Champions. Et je prends toujours comme exemple la demi-finale de perdu contre Chelsea en 2019 en Europa League. Et ben, ça a coûté très clairement la qualification, tellement les joueurs étaient crevés. Donc en fait, ils ont eu Freddy Bobic, qui avait l'ancien manager aujourd'hui Hertha Berlin, qui avait été chercher des joueurs assez extraordinaires en Europe. Je pense à Rebic, je pense à Jovic, etc. Il y avait des joueurs comme ça, Kostic, qu'il avait ramené aussi avec un excellent boulot. Mais là, on est en train de travailler à nouveau sur les jeunes, parce que pendant des années, il n'y avait plus de U21 ni de U23. C'est un grand débat, mais qui est typique à l'Allemagne d'ailleurs. Je crois que c'est relativement peu développé en Europe. C'est que comme les Allemands étaient très contents de leur formation, on va dire jusqu'à avoir été champion du monde en 2014, ils ont arrêté de travailler un petit peu là-dessus en disant, de toute façon, on les connaît déjà. Dont on les connaît déjà à 18 ans, les joueurs qui vont devenir une belle carrière. Donc Francfort vient de recommencer un cycle avec des U21 et du U23, ce qu'ils n'avaient plus du tout avant. Donc c'est tout nouveau. Et comme par hasard, c'est Kröschel, le manager, qui est arrivé, qui débarque de Leipzig pour justement mettre en place toute cette politique. Mais si tu restes d'un point de vue purement sportif, Francfort fait partie des gros clubs allemands qui sont les premiers des outsiders. Comme on pourrait dire, West Ham est aujourd'hui l'un des premiers outsiders derrière le Big Six en Première Ligue. Donc c'est très compliqué d'associer une politique de jeunes avec des performances sportives, même si évidemment les jeunes au départ coûtent moins cher qu'un Kostic, évidemment.
On est d'accord que le petit Vandika, le petit français de 22 ans, là, c'est un phénomène, Polo.
Moi, je le suis depuis qu'il est arrivé à Francfort, c'était complètement fou. Il y avait son ancien coach, l'Autrichien à 18h, qui disait « on va passer en défense à 3 parce qu'il faut lui trouver une place ». Donc ça montre bien ce que ça veut dire. Donc il avait Hinteregger, il y avait Abraham, l'Argentin à l'époque. Et là, tu vois, j'envoie un petit message, hein, si Lyon nous écoute, c'est un gaucher, il est fabuleux, il n'a pas fini sa progression, il va coûter à peu près 20-25 millions, prenez-le cette année ou l'année prochaine gratuitement, je ne sais pas, mais c'est vraiment Indica pour moi, il est l'un des défenseurs centraux les plus sous-cotés d'Europe. Il est vraiment, pour moi, il est toujours sur ma tablette dès que j'ai envie de construire une équipe.
Greg Vignal, Julien Laurence nous disait il y a quelques instants, il nous citait des noms, hein, côté Rangers, Tavernier qui est le meilleur buteur de cette Europa League, on le disait, Morelos qui est également le goléador de cette équipe des Rangers cette saison, toute compète confondue. Toi, quel joueur du côté des Rangers t'impressionne le plus?
Bon, écoute, moi j'aime bien Kent, hein. Je pense que Kent a amené une dimension supplémentaire dans la transition offensive, avec ses qualités de dribble, sa vitesse, sa percussion. Il est capable de jouer à gauche, à droite, mais je pense qu'il est plus à l'aise à gauche pour rentrer sur son pied droit. Mais ouais, il a fait la vie. Je pense que c'est un garçon qui a une marge de progression. Certainement, peut-être qu'il partira en fin de saison, voire peut-être l'année prochaine, mercato d'hiver, mais c'est un garçon qui va s'en prendre le temps sur le Glasgow Rangers.
Ouais, Ryan Kent fait à Liverpool, hein, Julien. Lui aussi, il a un parcours assez cabossé, on va dire. Il a beaucoup bourlingué aussi, hein. Il a que 25 ans.
Hein. Ouais, alors c'est normal aussi qu'il ait été prêté à un moment quand il était chez les jeunes à Liverpool, avant d'arriver avec Gerrard aux Rangers. Mais je suis d'accord avec Greg, c'est un super joueur, hein. c'est un dribbleur incroyable, il est capable de faire des différences, on l'a vu contre Dortmund notamment, balle au pied, pied droit, pied gauche surtout, il a vraiment les deux pieds, donc tu sais jamais de quel côté il va tourner, par où ça va aller, il est très rapide sur les premiers 5-10 mètres, donc c'est vrai, c'est un joueur qui est super intéressant, et dans un sens... Il est arrivé, donc il a signé de manière permanente en 2019, donc à l'été 2019, pour je crois 6 ou 7 millions d'euros. J'ai pensé, Greg, pendant longtemps qu'il serait pas encore là en 2022, si tu veux. Je pensais qu'il partirait plutôt, encore une fois, en Angleterre. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est qu'une question de temps, parce qu'à un moment, il va forcément, lui aussi, malheureusement aussi, hein, pour le championnat écossais, mais franchir la frontière pour aller côté Première Ligue.
Deflating. Plenty for them to celebrate. And I don't think Rangers can have too many complaints about the final outcome. They've been beaten by two clear goals on aggregate, beaten home and away by Jondal Thomason's team.
Commentaire de Rangers Malmö, c'était début août, un troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions qui marquait le début de la campagne européenne des Écossais, alors qu'ils passeront pas face aux Suédois et seront reversés donc en Europa League. La saison européenne des Rangers a donc débuté très tôt. Au moment de la finale, ils auront joué 63 matchs hein, cette saison. À titre de comparaison, l'Eintracht en sera à 47. Greg, est-ce que tu penses que la fraîcheur physique sera à prendre en compte à Séville pour les Rangers, ou finalement ils ont l'habitude de ces saisons très longues ces derniers temps?
Bah écoute, c'est une bonne question parce que c'est sûr que la fraîcheur va jouer. Parce que quand tu vois que Real Madrid fait tourner, donc c'est intelligent. Mais les Rangers ont joué le titre aussi jusqu'à la fin, donc ils ne peuvent pas trop se permettre de faire tourner. Il y a la coupe aussi, il y a la finale de la coupe d'Écosse qui va arriver rapidement. Et là, moi je pense que la fierté de jouer cette finale va amener quelque chose de supplémentaire dans la motivation. Après, tu sais, quand tu gagnes, la fatigue, tu l'oublies vite. Hein. Mais c'est vrai que sur le plan physique, ben, ça puise parce que les saisons au Royaume-Uni sont très, très, très lourdes. Ouais. L'impact physique, c'est plus pour les Rangers, tu vois. Si tu es obligé d'avoir cette winning mentality, d'être un winner, comme on dit, tu vois, week in and week out, tu ne peux pas te permettre de perdre des points parce que sinon, ça peut te coûter le titre. Donc forcément, tu as une débauche d'énergie qui est supplémentaire. Et plus les voyages, tous les trois jours, ça c'est attention pour l'organisme, c'est quand il n'y a pas l'habitude, c'est aussi c'est pesant.
Ouais, et puis Julien, forcément, il n'y aura pas le facteur Ibrox hein, à Sanchez-Pizjuan hein, pour les Rangers. Et c'est souvent là qu'ils ont renversé les situations les plus compliquées. Hein.
Ouais, c'est vrai, mais comme on en parlait tout à l'heure, il y aura assez de supporters qui vont mettre une ambiance de fou, mais Francfort sera pareil pour quand même soutenir l'équipe. Mais c'est vrai que ça t'enlève, un peu comme le Bernabeu pour le Real cette saison en Ligue des Champions, ça enlève aussi quand même une partie de magie déjà, cette impression que tu es vraiment dans une forteresse, que bah, il peut rien t'arriver finalement là-bas, même si Lyon y a gagné, hein, ils sont pas non plus invincibles à domicile. Mais c'est vrai que ça t'enlèvera un petit peu ça, mais ils le retrouveront d'une façon ou d'une autre quand même avec leurs supporters au Pizjuan dans la finale. Ce sera pas non plus trop un souci, je pense.
Polo, l'Eintracht avait terminé leader de son groupe d'Europa League devant l'Olympiakos, le Fenerbahçe et Anvers. Ils ont sorti le Betis, le Barça et West Ham hein, quand même hein, lors des tours précédents. Il a de la gueule hein, le parcours de Francfort, alors qu'il est invaincu cette saison en 12 matchs d'Europa League. Juste là aussi, à titre de comparaison, il y a eu 5 défaites en Europa League cette saison pour les Rangers, hein, l'autre finaliste. Hein.
Oui, alors en fait, alors c'est vrai, tu fais bien de mentionner qu'ils ont fini premier de leur groupe, mais c'était très compliqué parce qu'il y avait ce nouveau coach, Oliver Glasner, qui lui a été un adepte de la défense à 4, et il a bien vu que, pareil, il fallait faire de la place à Indica, donc on est repassé à 3, etc. Mais le parcours ne me surprend pas tant que ça. Je veux dire, c'est pas de la gloriole ce que je dis, mais il faut se rappeler quand même que sur les dernières saisons, ils ont sorti l'Inter, ils ont battu Arsenal, ils ont battu Benfica, ils ont sorti des grosses équipes, ils ont perdu qu'au pénalty, même si Chelsea était supérieur sur l'ensemble des deux rencontres en demi-finale d'Europa League. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont encore là. Hein. Il y a Hinteregger, Indica, la Starlette, hein, Kostic quand même. À lui, avec son pied gauche, il peut te faire la différence à n'importe quel moment, Kamada ou d'autres joueurs. Et donc, moi, je ne suis pas surpris parce qu'ils ont cette expérience aussi, je pense, de 2019 qu'ils ont utilisé. Le match contre le Betis Séville était très compliqué, mais ils l'ont emporté là-bas. Le match contre Barcelone, évidemment, on peut dire que Barcelone, c'était le favori de la rencontre. Sauf que lorsque tu commences à mener 3-0 au bout de quelques minutes de jeu, ben, tu as le droit de te dire bon ben ça va, on va sortir Barcelone. Encore une fois, c'est l'ADN européen de Francfort, il n'est pas neutre. Quoi. Alors cette saison est très moyenne en championnat. D'ailleurs, à domicile, ça fait 15 ans qu'on a été, qu'ils n'ont pas été aussi mauvais, y compris d'ailleurs en Europa League, hein, parce qu'ils ont battu seulement West Ham. Et puis, si je me rappelle bien, le Pirée, l'Olympiakos, ils les avaient battus 3-1. Mais il est très moyen à domicile, mais ils sont allés chercher leur qualif à l'extérieur quasiment systématiquement. Et cette finale, moi, alors, comme l'a dit Juju, je pense qu'une finale, de toute façon, ça se joue, donc c'est 50-50. Mais la première chose que je voudrais voir, c'est l'ambiance des Écossais et l'ambiance du peuple de Francfort. Parce que ça va être un truc, je pense que ça va surprendre peut-être quelques journalistes un peu trop habitués à la Ligue des Champions. Je crois que ça va être extraordinaire. Et d'ailleurs, il y a un côté old school dans cette équipe et dans cette rencontre, dans cette finale, qui, je pense, va nous faire du bien.
Eh ben, écoutez, on a hâte, ce sera mercredi. C'est déjà la fin de ce podcast. Merci Greg Vignal, belle saison à toi au Dundee FC. Merci d'avoir été avec nous dans l'After Galaxy, Greg.
Eh bien, c'est un grand plaisir. Donc, je vous souhaite une bonne fin de saison à tous. Et puis, j'ai quitté Clairefontaine pour retourner dans 15 jours pour le 2PF. Et puis, la saison, un peu de vacances et on repart.
Ouais. Vous l'aurez donc, compris. On a compris, on t'a grillé. Tu es dans un aéroport déjà. Donc, cherche pas, ouais. Il y a les sons derrière. Voilà. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas, Greg. C'est sympa de t'être rendu disponible.
C'est un grand plaisir. Merci, les gars. Salut, Polo. Ciao, ciao.
Salut, merci. Ciao, ciao à Grégory Vignal, merci beaucoup. Tiens, juste Polo, pour finir quand même, je crois que tu avais 2-3 infos sur l'Eintracht en vue de cette finale. Il y a des inquiétudes vis-à-vis de certains joueurs, je crois.
Bon, Hinteregger, c'est râpé, donc c'est quand même le boss de la défense, ça va manquer. Et puis évidemment, il y a le petit prodige danois Lindström, qui je pense va faire une très très belle carrière le jour où il aura compris qu'il y a un joueur sur le terrain et qu'il a 10 collègues autour de lui. Je pense que ça va être... c'est toujours pas entraîné, il ne sera pas du déplacement à Mayence ce week-end, ça va être très très juste pour la finale. Et ça, c'est tout le problème de Francfort aujourd'hui, c'est que le banc est très faible en fait. Et la deuxième chose qui me fait espérer que Francfort l'emporte dans cette finale, c'est terrible, c'est pas une question de jeu, c'est qu'en fait ça sera une véritable fin de cycle si Francfort s'incline contre les Glasgow Rangers. Et en fait, on sait pas ce qui va se passer derrière, donc c'est aussi pour ça que je suis pour Francfort. C'est que si t'as la Ligue des Champions, on sait à peu près ce qu'on peut faire. S'ils ont pas de Coupe d'Europe l'année prochaine, ça va être le départ de Kostić, Jendika notamment, voire d'autres, Kamada, etc. Et ça risque d'être compliqué vu la pandémie et les conséquences économiques des clubs.
Il y a quelques échos aussi côté Rangers ou pas, Juju?
Alors côté Rangers, on espère par exemple qu'un Kemar Roof, on sait que Morello sera pas prêt à jouer, qu'il sera encore blessé, mais ils espèrent au moins que Roof puisse jouer. Il y a l'interrogation autour d'Aaron Ramsey qui est arrivé en prêt de la Juventus au mois de janvier, qui a finalement très peu joué. On sait pas trop ce qu'il fait là en fait, mais il pourrait peut-être avoir. C'est le genre de joueur pour une finale pareille avec son expérience et tout ça. S'il peut tenir, ne serait-ce qu'une heure, peut être vraiment important et intéressant, je pense, dans une équipe comme les Rangers. Mais après, c'est juste l'excitation qui est en train de monter. On le sent du côté de Glasgow, entre la vente des billets ou en tout cas le tirage au sort qui va être effectué maintenant, parce qu'ils ont comme pour toutes les finales européennes, ils ont un nombre de billets beaucoup plus petit que le nombre de supporters qui veulent aller jusqu'à Séville. Donc c'est vrai que l'excitation, pareil à Francfort, hein, pareil au Real Madrid.
Il y a plus de 100 000 demandes, et je pense qu'il va y avoir un spectacle au stade, mais je pense qu'il va y avoir un spectacle extraordinaire en espérant très calme en dehors du stade.
Les gars, merci beaucoup. Merci Julien Laurence et Polo Breitner qu'on retrouve sur RMC dans l'After, bien entendu. Merci beaucoup, les gars. Merci Jérôme Thomas à la production. Merci Sylvain Kemener à la réalisation. Merci de nous être fidèles, nous suivre sur votre appli, de lâcher vos commentaires. Ne manquez pas la finale de cette Europa League mercredi 18 mai sur RMC, ce Eintracht Rangers, qui n'est pas une première. Lors de la saison 59-60, les deux équipes s'étaient affrontées en demi-finale de la Coupe des clubs champions. Victoire en 2-7 des Allemands, 6-3, 6-1. On se quitte en musique avec ce qui était le tube de cette année 1960 en Allemagne. Un duo de chanteurs danois, Jan et Kjeld, qui a tellement cartonné en Allemagne qu'il se faisait appeler Born New Boys, du nom de cette chanson. Bon kiff, bisous, prenez soin de vous. Inter-